France Inter.
Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un pétard au petit déjeuner, autorisé en Allemagne. Depuis ce matin, le cannabis est légalisé. On a le droit de le fumer, de le faire pousser, bientôt de l'acheter dans des clubs. Explication à suivre, bien loin du modèle français, on va l'entendre. La une ce matin, c'est aussi cette nouvelle enquête qui commence aux alentours du Haut-Vernay pour élucider la mort du petit Émile. Nous sommes sur place dans un instant. Certains ont tout perdu, on va l'entendre en Indre-et-Loire, dans la Vienne et la Haute-Vienne. Les cours d'eau commencent à baisser après les inondations du week-end. La une ce matin, c'est aussi la claque électorale subie par Recep Tayyip Erdogan, le président turc, et son parti défait au municipal. Et puis un chef-d'œuvre restauré au Louvre et l'on redécouvre la Vierge du chancelier Rollin, signé Van Eyck, grand peintre flamand du 15e siècle. Qui est donc votre invité, Nicolas, à 8h20?
Eh bien, on va le demander à Léa Salamé, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Il est allemand et philosophe.
Oui, et il pose cette question, c'est quoi l'esprit européen? Il tente de le définir dans un essai passionnant, Lire entre les lignes, sur les traces de l'esprit européen chez Albin Michel. Le philosophe Heinz Wissmann, qui a formé une génération d'étudiants encore éblouis par ses cours à l'EHESS, est notre invité à 8h20.
01 45 24 7000 pour vos questions.
France Inter.
Des volutes de fumée, porte de Brandebourg à Berlin, joint de cannabis allumé à minuit par des centaines de fumeurs. Pour fêter la légalisation, à partir d'aujourd'hui, l'Allemagne devient le plus grand pays européen à autoriser la fumette. Les consommateurs peuvent donc désormais cultiver 3 plants de cannabis et bientôt en acheter 50 grammes par mois dans des associations. Ces clubs ouvriront officiellement le 1er juillet. Reportage à Berlin, signé Sébastien Baer.
L'emplacement est déjà trouvé. Une parcelle de 150 mètres carrés en périphérie de Berlin, loin des regards indiscrets. C'est là qu'Oliver Vak Jürgensen fera pousser ses plants de cannabis. Le sexagénaire est le président du club High Ground de Berlin.
Depuis que la loi est passée, je reçois des demandes d'adhésion tous les jours. Il y a tous les profils, de 23 à 82 ans. On proposera le gramme d'herbe entre 3 et 10 euros selon la variété et le mode de production. C'est deux fois moins cher que sur le marché noir.
120 personnes ont déjà rejoint le club qui pourra accueillir 500 membres au maximum. Parmi les nouveaux adhérents, Bad Bung, un Berlinois de 34 ans.
C'est un soulagement. Plus la peine de se cacher. On peut maintenant sortir, fumer un joint, profiter avec des amis. On n'a plus besoin de se prendre la tête. Cela va faire des économies et au moins, je suis sûr de la qualité de ce que je consomme.
Car c'est aussi l'objectif de la nouvelle loi, sécuriser la consommation, explique Stefan Geyer, le président de l'association des clubs de cannabis.
Souvent, sur le marché noir, le cannabis est contaminé par des diluants et des produits chimiques inconnus. Chaque gramme qui poussera sur le balcon de la maison ou qui sera cultivé dans des clubs de cannabis, c'est un gramme de moins qui sera vendu sur le marché noir. Nous pourrons le réduire d'un tiers dans les 2 ou 3 prochaines années.
400 clubs cannabis ont déjà été créés en Allemagne. Ils devraient être 10 fois plus nombreux d'ici un an. Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
L'Allemagne devient donc le 3e pays de l'Union européenne à autoriser l'usage récréatif du cannabis après Malte et le Luxembourg. D'autres, comme l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, bien sûr, en tolèrent l'usage, loin de la doctrine qui prévaut en France. Simon Le Baron, pays le plus consommateur d'Europe.
Le discours est clair, porté encore jeudi dernier par Gérald Darmanin. Tolérance zéro avec les trafiquants comme avec les consommateurs.
Fumer son joint, prendre son rail de coke, c'est participer à un trafic qui exploite les enfants, qui torture les personnes et qui crée des règlements de compte et qui finance le terrorisme. Je peux assurer que c'est une politique populaire, parce que c'est les gens des quartiers populaires qui subissent parfois la consommation bourgeoise.
Une ligne pragmatique, assure le ministère de l'Intérieur, qui cite en contre-exemple les Pays-Bas gangrénés par la mafia, et symbolique, montrer aux parents qu'on ne baisse pas les bras. Posture idéologique, regrette la députée macroniste Caroline Janvier.
Il est plus facile de dire qu'effectivement, dès qu'on parle de légalisation, c'est qu'on a une approche laxiste vis-à-vis du phénomène, que de dire qu'au contraire, en légalisant, on va assécher le marché noir et donc réduire la criminalité.
Elle met en avant les résultats obtenus par les Portugais qui ont dépénalisé la consommation de cannabis en 2000 ou les Canadiens qui ont légalisé il y a 5 ans.
Ils ont fait baisser la consommation des jeunes, notamment des 15-17 ans, et réduit très fortement les phénomènes criminels associés au trafic de cannabis.
La députée se souvient que le ministre Macron reconnaissait en 2016 une forme d'efficacité à la légalisation Elle est désormais convaincue que le débat est clos jusqu'à la présidentielle de 2027.
Simon Le Baron.
Il est 8h06. Qu'est-il arrivé au petit Émile ?
Recherché depuis le 8 juillet dernier, son sort restait un mystère. Le crâne de l'enfant retrouvé samedi à proximité du Haut-Vernay ne l'a pas dissipé. La question maintenant, c'est celle des causes de sa mort, à laquelle une nouvelle phase de l'enquête va tenter de répondre. À l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie qui analyse les os et sur place, aux alentours du hameau ratissé l'été dernier, dans les Alpes de Haute-Provence, on y rejoint Mathilde Vinceneux. Bonjour Mathilde.
Bonjour Florence, bonjour à tous.
Le Haut-Vernay, Mathilde, est de nouveau bouclé et des enquêteurs s'apprêtent à reprendre les recherches.
Oui, ici, les véhicules de gendarmerie arrivent au compte-gouttes. Une centaine de gendarmes vont se déployer pour passer au peigne fin, une zone en sous-bois, un peu plus d'un kilomètre à vol d'oiseau du hameau du Haut-Vernay. C'est là-bas qu'une partie des ossements du petit Émile, un crâne notamment, ont été retrouvés par une promeneuse. L'accès aux sentiers forestiers alentour est bloqué. Interdiction aussi d'accéder au hameau pendant toute la semaine. Décision du maire François Bally, qu'il fait part de sa tristesse et attend désormais des réponses.
C'est un drame qu'un enfant de 2 ans et demi soit décédé dans des circonstances sans doute tragiques. Donc je pense à lui et je pense également très fort à ses parents. Il faut être patient, il faut avoir confiance dans la justice et surtout dans la gendarmerie. Parce qu'on ne sait pas finalement, on ne sait pas du tout quelle est la cause de la disparition d'Émile. On sait que maintenant il est décédé, mais quelle est la cause de sa mort? C'est très éloigné du dernier lieu où on a pu constater sa présence. Le mystère se déplace, quoi, mais on est toujours dans le mystère.
Pour tenter de comprendre, les enquêteurs et experts de la gendarmerie vont traquer le moindre indice, chercher de nouveaux ossements ou des vêtements, par exemple, à l'aide de chiens dans un périmètre qui avait déjà été largement fouillé. Les enquêteurs sont-ils passés à côté du corps lors des battues ou alors les ossements ont-ils pu être déplacés? Aucune piste n'est écartée. Les recherches s'annoncent en tout cas difficiles sur terrain boueux. Il a plu ici toute la nuit.
Mathilde Vinceneux avec Gilles Gallinaro à proximité du Haut-Vernay où le petit garçon passait ses vacances chez ses grands-parents au moment de sa disparition. 5,43 m à Chinon ce matin. La Vienne en crue a dépassé son niveau de 2007. Tout un quartier a été évacué en prévention hier soir. 150 personnes sur la liste des pompiers. Toujours en Indre-et-Loire, la Creuse, elle est allée au-delà des 7 mètres hier à Descartes, du jamais vu depuis 1926. Dans le département voisin de la Vienne, l'heure est à la décrue. Dans la ville de Montmorillon, particulièrement éprouvée samedi, une centaine de logements et 50 commerces inondés, dont la boucherie de Franck Souris. Il a tout perdu en plein week-end de Pâques.
On est désemparés, on ne sait pas par où attaquer. Heureusement, bon, y a des amis qui sont là pour nous soutenir. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est le deuxième week-end de l'année en chiffre d'affaires. Ça va être une perte colossale. J'ai pas chiffré encore, mais bon. Toutes mes commandes honorées, j'avais au moins une cinquantaine de commandes par les clients et j'ai honoré aucune commande puisque tout était abîmé vu la montée des températures dans les chambres froides. J'ai perdu toute une chambre froide. Ça représente des agneaux, ça représente du veau, une demi-bête de bœuf, ça représente une grosse partie de la charcuterie fabriquée. J'ai perdu une cellule de refroidissement, une étuve, 2 moteurs. Plus tout le petit matériel que malheureusement on va découvrir petit à petit. Alors on pense à l'après, bon j'espère que les experts vont passer très vite, qu'on puisse leur faire constater. Il faut faire tout vérifier les moteurs, il faut faire venir des entreprises. Donc c'est minimum une semaine fermée de toute manière pour j'espère repartir la semaine prochaine.
Voilà, le gouvernement a lancé une procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les 3 départements de la Vienne, de la Haute-Vienne et d'Indre-et-Loire.
Il est 8h10 en Turquie, c'est une défaite personnelle pour Recep Tayyip Erdogan.
Lui-même reconnaît un tournant au soir d'élections municipales largement remportées par l'opposition, qui conserve les villes d'Istanbul et d'Ankara et remporte des fiefs du parti présidentiel. Erdogan, au pouvoir depuis 21 ans, avait pourtant enchaîné les meetings et mis tout son poids dans la bataille. Sans succès, explique le politologue turc Ahmet İnsel.
C'est pas simplement Istanbul et Ankara, c'est les deux grandes villes, mais aussi la plupart des villes de l'ouest de l'Anatolie, dans les mairies, passent aux candidats du parti d'opposition, du parti républicain du peuple. Et au niveau national, quand on réunit les votes pour les maires ou pour les conseils municipaux, le parti républicain du peuple, le parti principal d'opposition, passe devant le parti de justice et développement de Erdogan au niveau national. Ça aussi, c'est une claque très importante parce que c'était pas arrivé, je dirais, depuis 1977, ce résultat.
La défaite cuisante du président turc, décryptée par l'universitaire Ahmet İnsel, invité de Mathilde Munoz ce matin. Quand le Hamas présente ses excuses aux Gazaouis, communiqué publié cette nuit, qui reconnaît l'épuisement et les souffrances causées par la guerre contre l'armée israélienne, elle-même annonce ce matin que 600 soldats israéliens sont morts en presque 6 mois de conflit. En Europe, combien serons-nous à voter lors des élections du mois de juin? Scrutin européen aux enjeux d'autant plus clairs qu'on se rapproche des frontières, comme dans le nord de la Moselle. De l'autre côté, c'est le Luxembourg, où plusieurs dizaines de milliers de Français vont travailler chaque jour. Ceux-là, Manon Derdevet, sont très attachés à l'Union européenne.
En voiture ou en train, chaque matin, des milliers de Français font plus d'une heure de trajet pour aller travailler dans le quartier d'affaires du Kirchberg à Luxembourg-Ville. Anne-Sophie Gasparina est responsable de gestion immobilière. Elle habite en France et fait le trajet depuis 15 ans et elle est très attachée à l'Europe.
C'est plus important pour moi l'Europe que la France. J'ai plus une culture maintenant européenne que française. C'est vrai que la France, je la vois de loin maintenant. On a le Parlement européen qui est juste à côté. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux par rapport à ça. Oui.
Préserver l'Union européenne pour préserver les frontaliers côté français à Omès, au nord de la Moselle, à une dizaine de kilomètres du Luxembourg. C'est le combat de Saïd Bouressam, président d'une section syndicale de frontaliers français.
La question de l'Europe, on la vit tous les jours au quotidien. Parce que j'aime bien dire qu'on vit en stéréo. Hein. On a un pied au Luxembourg, façon de parler, puis un pied ici à Omès. Nous appelons l'ensemble de nos concitoyens frontaliers à aller voter, hein. À faire attention avec ce qui monte en ce moment en France, ça m'inquiète et ça m'interroge.
Si en Moselle, c'est le Rassemblement National qui est arrivé en tête lors des dernières élections européennes en 2019, plus on s'approche de la frontière luxembourgeoise, plus le vote RN baisse. Alain, ancien frontalier, tout juste retraité, milite pour une Europe toujours unie demain.
Avec tout ce qui se passe avec l'Ukraine, il faut qu'on soit européen. Moi, je me sens aussi bien luxembourgeois que danois ou suédois.
Chaque jour, plus de 120 000 frontaliers français font l'aller-retour pour aller travailler au Luxembourg.
Reportage Manon Derdevet. Les frontaliers mosellans sont à suivre toute cette semaine dans le feuilleton du 13-14. Fini le malus retraite pour 700 000 pensionnés de l'AGIRC et de l'ARCO. À partir d'aujourd'hui, ils vont récupérer les 10% qui leur étaient amputés de leur complémentaire quand ils n'allaient pas plus loin que l'âge légal de la retraite. Au chapitre des changements du 1er avril, il y a aussi la vignette verte de l'assurance auto, plus d'obligation de la caler sur son pare-brise. Et puis cette décision locale, à partir d'aujourd'hui, appliquée dans le métro de Lyon, qui compte 118 écrans de publicité lumineux, ils vont disparaître progressivement, question de principe et d'économie d'énergie. D'autres villes aimeraient faire la même chose, Faustine Calmel, mais ça n'est pas si simple.
Dans le métro parisien, les voyageurs sont globalement contre ces écrans.
Au bout d'un moment, on les voit plus, mais genre inconsciemment quand même, ça rentre.
Les enlever, ça serait mieux, surtout d'un point de vue écologique.
Et l'adjoint à la mairie en charge des transports, David Béliard, aussi, qui a déposé un amendement pour leur retrait par Île-de-France Mobilité.
Et il nous a été répondu que ce n'était pas possible pour des raisons financières. La publicité numérique, c'est 0,3-0,4% véritablement du budget global. Donc c'est... marginal.
5 millions d'euros environ à combler malgré tout. À Lille, la ville s'est appuyée sur le code de l'environnement et l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France chargé de protéger le patrimoine pour les interdire sur les abribus. À Rennes, la ville va les enlever entièrement du métro d'ici l'an prochain. Petite difficulté au Mans, ces écrans sont pour beaucoup situés sur des propriétés privées, terrains ou boutiques. La mairie engage donc des procédures judiciaires. Christophe Counil est l'adjoint à l'urbanisme.
On commence d'abord par une procédure à l'amiable en demandant le retrait, mais j'ai face à moi une société principalement qui joue la montre en jouant sur toutes les failles juridiques qui peuvent exister. Donc parfois, ce sont des démarches qui sont assez longues en effet.
Supprimer la pub numérique, en tout cas, allège la facture énergétique. Un écran de 2 mètres carrés utilise autant d'électricité qu'un ménage français en un an.
Faustine Calmel, plus cher les Tesla en France. Le constructeur de voitures électriques augmente ses entrées de gamme de 600 euros et ses SUV de 2000 euros. Pas de raison avancée. Si ce n'est l'augmentation des profits sans produire davantage de véhicules. Et tiens, chez le concurrent PSA, devenu Stellantis, ça fait 10 ans que Carlos Tavares est aux manettes. A-t-il fêté l'anniversaire hier? Après avoir transformé le groupe en champion mondial, au bénéfice net de 20 milliards d'euros l'an dernier, et touché 35,5 millions d'euros de rémunération, ce qui n'était pas passé inaperçu, Fabien Cazot.
Il est devenu l'homme des profits records. Pourtant, lorsque Carlos Tavares prend les commandes de PSA en 2014, le constructeur français est en perte. Champion de la réduction des coûts, venu du concurrent frontal Renault, Tavares transforme profondément l'entreprise. Il accentue sa présence en Chine et revoit de fond en comble la chaîne de production des modèles électriques. Dans le même temps, les ventes progressent, portées à l'époque par le dynamisme des marchés européens. PSA enregistre de beaux succès commerciaux, notamment sur ses gammes Citroën DS. Signe de la nouvelle ampleur que Carlos Tavares veut donner au groupe, il lui donne en 2021 un nouveau nom, Stellantis, censé refléter les ambitions mondiales de l'entreprise. À l'occasion de son mariage avec Fiat Chrysler, la nouvelle entité transfère alors son siège social aux Pays-Bas. Tavares, l'optimisateur, n'en a jamais fait mystère, quitte à paraître froid et autoritaire. Son objectif numéro un, c'est la profitabilité, quitte à se séparer de milliers de salariés dans le monde lorsqu'il l'estime nécessaire, comme encore récemment aux États-Unis, et ce malgré les résultats record affiché par son groupe.
Fabien Cazot, 2-0 pour le PSG hier soir à Marseille. Pourtant, les Parisiens très vite n'ont été que 10 sur le terrain. Quant à Kylian Mbappé, il est sorti l'air contrarié au bout d'une heure de jeu, renvoyé au vestiaire par l'entraîneur du PSG. Enfin, voici une lumière qui nous arrive du 15e siècle. Elle inonde l'un des chefs-d'œuvre de la peinture flamande. C'est la Vierge du chancelier Rollin, signée Jan van Eyck. Le tableau vient d'être restauré, visible au Louvre, avec tout son éclat et ses symboles. Isabelle Pasquier l'a scruté avec attention.
Au plus près du tableau, on aurait presque peur de déranger cette Vierge recueillie silencieuse, avec ses cheveux blonds vénitiens. Sur sa tunique rouge, elle tient l'enfant Jésus, représenté en sauveur du monde. Émotion devant tant de délicatesse, spiritualité et virtuosité. Sophie Caron, commissaire de l'exposition.
La force de van Eyck, c'est qu'il arrive vraiment à doter ses œuvres de l'impression de la vie qui passe. La lumière telle qu'elle interagit avec les visages, avec la fourrure, donne à ses œuvres cette espèce d'impression vibrante de vie qu'il est le seul à cette époque à réussir à nous faire éprouver devant ses œuvres.
Jamais depuis plus de 200 ans, on avait pu voir ces bleus et rouges éblouissants. Le tableau sur bois a été décrassé de tous ces vernis qui cachaient ces paysages. Villes et neiges éternelles, symbole de la perfection de la création divine.
Van Eyck, c'est un maître de la peinture à l'huile. Il emploie des recettes connues. Simplement, ce qu'il ajoute, c'est un sens de l'observation extrêmement aigu et aussi une compréhension de la réaction de la lumière sur différents matériaux qui donne cette qualité tactile à sa peinture.
Sans complexe, le chevalier Rollin, ministre des finances du duc de Bourgogne, s'est fait carrément représenter avec la même importance que la Vierge sur ce tableau destiné à lui ouvrir le paradis.
Isabelle Pasquier, manifestement ça vaut le coup, l'œuvre n'avait jamais été restaurée depuis son entrée au Louvre en 1800, Nicolas. Oui.
Merci Florence Paracuelos.
Un peu de crasse.
Oui, j'imagine. Le film Apollonia, Apollonia, sorti la semaine dernière, documente la naissance d'une artiste et c'est elle, la peintre Apollonia Sokol, qui sera au micro de Léa Salamé tout à l'heure à 9h20. La météo tout de suite, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur euromaster.fr.
Et une petite accalmie ce matin, Marie-Pierre.
Et oui, Nicolas, sur les régions centrales du Nord, en descendant vers le Massif central, pas de pluie, mais un ciel encore coche chargé et quelques éclaircies. Puis à noter le retour du soleil du Sud-Ouest jusqu'à la Côte d'Azur, mais pas en Corse où les pluies sont toujours d'actualité, comme d'ailleurs sur une grande partie des régions de l'Est, à cause à la fois des pluies de l'épisode méditerranéen qui sont remontées, doublées de la première salve orageuse qui a traversé le pays hier, qu'on retrouve ce matin. Donc de la Lorraine aux Alpes, avec de la neige sur les reliefs, toujours les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence en vigilance orange avalanche, prudence. Autre vigilance orange qui concerne les crues avec la Côte d'Or et la Saône-et-Loire à l'est et à l'ouest. On a toujours les Charentes, la Gironde et la Dordogne en orange et toujours l'Indre et Loire en rouge car on a une nouvelle perturbation qui arrive par le nord-ouest et qui va arroser dès ce matin les régions bretonnes au bassin d'Arcachon sous un mercure contrasté alors qu'il fait 0 à Clarac en Haute-Garonne. Vous avez 16 à Calvi, 9 à Lyon et Paris.
Et l'après-midi beaucoup plus agité.
Oui, pas de jaloux, la perturbation va va déstabiliser la masse d'air sur les trois quarts du pays, donnant orage, grésil les vents avec la Méditerranée qui restera à l'écart, mais pas la Corse, où le vent va souffler jusqu'à 100 km par heure sous les averses, et qui gagneront également le sud-ouest et même quelques flocons sur les Pyrénées de l'Est à 1500 mètres. Sous des valeurs à peu près de saison, 11 à la marche dans les Vosges, 14 à Lille, Gap, Tonnerre ou Chinon, 15 à Paris au Havre, vous aurez 18 à Montpellier, 19 à Bastia, en se rappelant que les Pâques pluvieuses sont souvent fromenteuses et souvent menteuses, sans oublier qu'au 1er avril, poisson se faufile. Attention Nicolas.
Oui, merci Marie-Pierre. Il est 8h20.